Suivez Éco d'ici, Éco d'ailleurs avec la BOAD, Banque Ouest-Africaine de Développement.
Éco d'ici, Éco d'ailleurs.
Bruno Faure.
Bonjour et bienvenue, Éco d'ici, Éco d'ailleurs et de sortie encore une fois. Pas très loin cette semaine de nos studios habituels, à quelques centaines de mètres des locaux de RFI. Nous sommes à Paris, tout près de la Tour Eiffel, à l'hôtel Novotel où se tient le Forum Afrique du CIAN, le Conseil français des investisseurs en Afrique. Forum organisé avec le journal L'Opinion. Des acteurs majeurs de l'économie sont présents, de hauts dirigeants politiques aussi, pour réfléchir aux défis du continent et aux opportunités qui se présentent à lui, avec en filigrane la question de la relation entre la France et les pays africains. La France concurrencée par la Chine, par l'Inde, par la Russie, par la Turquie, d'autres pays encore, a-t-elle les moyens de briguer les mêmes parts de marché que par le passé? C'est le sujet de notre débat dans un petit instant. On parlera ensuite de la grande préoccupation du moment dans le monde, comment s'approvisionner en énergie pour nous déplacer, nous nourrir, nous chauffer ou nous réfrigérer, pour faire fonctionner nos industries et nos services. La guerre en Ukraine, les pénuries de carburant et d'électricité dont on parle depuis de nombreuses années, le tout dans un contexte d'inflation généralisée, dans le contexte aussi du réchauffement climatique, la remise en cause des énergies fossiles. Comment l'Afrique doit-elle et peut-elle se positionner, elle qui possède les ressources, mais pas forcément les infrastructures suffisantes? Comment développer les énergies renouvelables? Nous serons avec le ministre gabonais de l'énergie, Alain-Claude Bilibinzé, le Gabon particulièrement concerné par ces problématiques. Nous allons essayer d'être les plus clairs possibles pour nos auditeurs et pour nos internautes, très intéressés par toutes ces questions. Vous avez été très nombreux à partager et à commenter notre émission de la semaine dernière sur la logistique en Afrique, avec les interventions des dirigeants de MSC et de Bolloré. Vous n'oubliez donc pas notre compte Facebook RFI Echo, notre compte Twitter RFI Echo également. Bienvenue à tous au Forum du CIAN à Paris, Conseil français des investisseurs en Afrique. Bolloré, dégage, ce slogan lors d'une manifestation en mars dernier à Ouagadougou, au Burkina Faso, pour demander le départ du groupe français et pour dénoncer sa gestion du réseau ferroviaire.
Non, non et non. Il est temps que Bolloré laisse le gouvernement burkinabé en paix, surtout la France. Surtout la France. Le terrorisme économique encore dans la ville. Pourquoi? Nous ne sommes pas d'accord.
Terrorisme économique. Les mots sont très durs contre Bolloré et contre la France, dont la présence est de plus en plus souvent remise en cause pour des raisons politiques aussi, on le sait. Les chiffres sont là. Depuis des années, la France perd des parts de marché en Afrique, conquises par la Chine d'abord, d'autres puissances maintenant. Mais la France et ses entreprises ne baissent pas les bras. Bonjour Étienne Giros.
Bonjour.
Vous êtes le président du CIAN, le Conseil français des investisseurs en Afrique, dont les membres réalisent 80% du volume d'affaires sur le continent, c'est ça ?
80% du volume d'affaires et 60 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est vous dire la taille et l'importance.
Et bonjour à Stéphanie Rivoal.
Bonjour.
Vous présidez le Conseil stratégique Afrique pour Duval, un groupe français spécialisé dans l'immobilier, membre du Conseil de surveillance de Meridiam, qui développe des infrastructures en Afrique, ancienne ambassadrice de France en Ouganda, ancienne présidente d'Action contre la faim. On peut dire que vous connaissez bien le continent.
Et je l'aime beaucoup.
Stéphanie Rivoal, cette défiance contre la France et ses intérêts économiques, elle n'est pas tout à fait nouvelle. Vous diriez qu'elle prend de l'ampleur quand même avec les changements politiques ou géopolitiques, la progression de forces anti-françaises ?
On ne peut pas nier l'évidence. On entend ici le Burkina Faso. Ça me rappelle également ce qu'on peut entendre au Mali, notamment avec des discours anti-français très virulents dans la rue. Alors le contexte, il y a plusieurs éléments. Il y a le contexte géopolitique global. D'autres puissances sont à l'œuvre pour que ce sentiment anti-français naisse et se développe. Mais bien évidemment, on ne peut pas non plus nier la responsabilité des acteurs français, publics ou privés, dans une situation qui malheureusement se détériore en part de marché. Je finirai, et pas tout de suite, mais sur une note positive. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais le constat est celui qu'on peut entendre à travers les témoignages que vous avez cités. Ce sentiment anti-français, il vient d'une longue collaboration de sociétés françaises avec des acteurs africains, mais qui a donné le sentiment d'une présence trop forte, peut-être monopolistique dans certains cas, une faveur accordée aux sociétés françaises, alors même que les autorités publiques étaient, après les colonisations, assez favorables à faire perdurer ce type de collaboration et d'investissement de sociétés françaises privées dans le continent africain. D'autres acteurs sont arrivés, bien sûr les Chinois, vous les avez cités, les Turcs, les Indiens plus récemment, mais aussi de la concurrence intra-européenne avec les Allemands, les Hollandais et les concurrences historiques des Anglais et des Américains. Nous avons une transformation à faire sur le positionnement des sociétés françaises et l'accompagnement des autorités publiques sur ce que nous avons à offrir au développement économique des pays africains et notamment ceux que nous connaissons le mieux de l'Afrique francophone.
Étienne Giros, le secteur privé en partie responsable, lui aussi quand même,
d'abord,
ou est-ce que c'est seulement la France qui est visée ?
D'abord, il est indéniable que le sentiment anti-français, il existe. Mais il faut le nuancer, si vous me permettez. Il faut bien rappeler d'abord que il s'exprime et il s'exerce quasi exclusivement en Afrique francophone et au sein de l'Afrique francophone, essentiellement dans la zone sahélienne. Il faut dire ça, il y a 54 pays en Afrique, il n'y a pas 54 pays où il y a un sentiment anti-français qui se développe.
Mais dans ces pays-là où les entreprises françaises sont très représentées.
Deuxièmement, il faut dire que ce sentiment anti-français, il est d'abord et avant tout axé et centré sur l'action publique de la France, militaire, politique, diplomatique, historique, le passé qui nous lie avec ce continent, etc. Et que les entreprises sont assez exonérées de ces reproches. Et je peux vous dire que nous sommes penchés au sein de beaucoup sur cette question.
Bolloré est un cas particulier ?
Nous sommes beaucoup penchés sur cette question en Afrique et il ressort que les entreprises françaises sont appréciées. Après, je voudrais faire une autre remarque, parce que vous avez passé cet extrait sur le groupe Bolloré, qui est très frappant, évidemment, mais je voudrais souligner qu'il y a quand même une certaine instrumentalisation dans ce sentiment anti-français et beaucoup de choses fausses sont dites. Et on peut demander à cette personne ce qu'elle pense réellement et sur quoi son raisonnement est fondé. Mais on peut aussi aller interroger des milliers d'autres personnes qui sont heureuses de travailler chez Bolloré parce que les salaires sont supérieurs et que le service est délivré. Donc je pense qu'on a aussi, et pour finir, les sociétés françaises, une attitude positive sur la question de la RSE, de la position des femmes, du respect des droits sociaux, de la protection de la planète. Et toutes ces choses-là ne peuvent pas être oubliées. Donc, un peu d'instrumentalisation, la partie anglophone, francophone, et la partie étatique et privée qui sont à différencier. Voilà un peu mon sentiment, mais je ne nie pas qu'il y a un problème.
On a quand même effectivement des pays comme le Mali, où la France est en partie rejetée. Est-ce que ça perturbe le business ?
Le Mali,
c'est un pays important pour les entreprises
françaises. Ça ne perturbe pas le business parce que les entreprises françaises seraient rejetées du Mali. Je n'ai pas, à ma connaissance, entendu parler de cas comme cela. En revanche, ça le perturbe parce que les entreprises françaises sont inquiètes à aller au Mali dans le contexte. Donc c'est plutôt un frein du côté des entreprises françaises qu'une éjection d'entreprises françaises.
La perception du risque, est-ce que c'est une vraie question ?
Il y a le risque
et il y a effectivement ce qu'on imagine.
C'est une question complètement centrale. Et je pense que le travail du CIAN et auquel je contribue bien volontiers, c'est d'avoir une réelle évaluation de ce risque. Aujourd'hui, il est surévalué. Le contexte africain, par rapport à un contexte, je vais prendre celui chinois, par exemple, où nombreuses sociétés françaises travaillent en Chine, comporte autant de risques, ils sont autres, mais autant de risques à travailler en Chine qu'à travailler en Afrique. Ce ne sont juste pas les mêmes. Et en Afrique, il y a une réticence pour les nouveaux entrants, et c'est pour ça que le CIAN notamment, et les autres groupes français sont là pour essayer d'aider les nouveaux entrants à comprendre. Il y a quoi comme risque ? Le risque géopolitique, on l'a vu, il y a des coups d'État. On n'est pas surpris qu'il y ait un coup d'État au Mali, c'est l'un quasiment des pays record du monde de coups d'État. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On a une résilience quand on est un acteur, avec une réputation locale, on s'appuie sur ses employés qui sont là aussi pour expliquer que cette présence peut être tolérée. Et puis surtout, on intègre dans le modèle économique le fait qu'il y aura des moments avec des à-coups politiques. Il y a le risque de change qui peut être important dans certains pays et c'est là où il y a des instruments français pour accompagner ces risques-là. Il y a des risques de défaut, de paiement, de financement, mais encore une fois, les dispositifs, que ce soit de la BPI, de Proparco, sont là pour accompagner. Donc franchement, ces risques-là sont les risques partout. Et le dernier, c'est le risque du climat des affaires locales. Avec qui on travaille, quels sont les partenaires, ont-ils une bonne réputation, etc. Bien évidemment qu'il existe, mais il existe dans beaucoup de pays, si ce n'est quasiment tous les pays, les pays d'Amérique latine dans lesquels le sujet est très présent. En Chine, c'est un sujet qui n'est pas non plus à négliger. Et donc, je pense qu'il faut avoir une meilleure évaluation de ce risque, car il n'y a pas à dire, les ressorts de croissance dans le monde sur les 10-20 prochaines années seront en Afrique pour les sociétés françaises.
Étienne Giros, la guerre en Ukraine, ça ne va pas forcément améliorer la situation pour la présence des entreprises étrangères en général, pas seulement françaises. L'inflation, les problèmes alimentaires.
D'abord, la guerre en Ukraine, sa première conséquence, c'est qu'elle augmente l'aversion au risque des entreprises. Quand des entreprises sont obligées de quitter la Russie, quand elles sont attaquées au plan réputationnel parce qu'elles continuent à faire des affaires en Russie, en Afrique ou d'autres projets, ça augmente l'aversion au risque. Et comme l'a dit Stéphanie, je ne vais pas répéter, elle a tout à fait raison, il faut lutter contre cette perception du risque qui est surévaluée. Après, les conséquences pour l'Afrique de cette situation, ça va être une inflation importante, une difficulté pour acheter et acquérir des matières premières, et troisièmement, le risque alimentaire. À nous autres d'apporter les réponses, car à toutes ces problématiques, il y a des réponses. Et ce que je peux vous dire, c'est que les entreprises françaises, elles ont des solutions. Et si elles ont la volonté d'y aller, on va pouvoir, en co-construction avec les États africains, faire des choses formidables.
Vous qui avez présidé Action contre la faim, quel regard vous avez sur cette problématique de l'utilité d'une entreprise étrangère dans une situation comme celle-là ?
Il faut restaurer la souveraineté alimentaire dans tous les pays du monde, y compris en Afrique. Ça devient une évidence. Pas la sécurité alimentaire, la souveraineté alimentaire. Pour ça, qu'est-ce qu'ont proposé les sociétés françaises ? C'est d'implanter de la transformation agroalimentaire en Afrique. Donc on a des sociétés qui sont des spécialistes de ça, dans le domaine laitier, dans le domaine de la viande et dans le domaine des conserves, des jus de fruits ou même bien évidemment des céréales. Donc il faut qu'on accompagne la construction de l'autonomie alimentaire des pays pour qu'ils ne soient plus dépendants du blé. Quand on voit Macky Sall, président de l'Union africaine, avec Vladimir Poutine négocier l'exportation de blé, on voit bien ce qui est en jeu du point de vue géopolitique et influence. Il faut absolument qu'on aide les pays africains à ne plus avoir ce genre de situation de dépendance.
Alors il y a des questions d'urgence, c'est pour ça que le président Macky Sall a été voir le président Poutine. Il faut rapidement résoudre le problème, mais après le long terme, les entreprises françaises peuvent aider dans des questions techniques agricoles, mais aussi dans la logistique. Sans logistique, pas la peine de développer l'agriculture, et dans la formation. Voilà, c'est les deux points où nous pouvons aussi beaucoup aider. Il faut donc mettre en place des plans rapides où les entreprises pourront investir à une autre condition, c'est que les financements publics, l'ancienne aide publique au développement, soient en partie dévolus au secteur privé. C'est pas normal que cette masse d'argent énorme qui est déversée sur l'Afrique, le secteur privé n'en ait quasiment que des miettes.
J'allais y venir, vous trouvez que le secteur privé n'est pas suffisamment aidé dans ce genre de contexte ?
Le secteur privé, il ne demande pas à être aidé. Il demande simplement à financer ses investissements. Le secteur privé, il prend ses risques. Mais en Afrique particulièrement, mais partout dans le monde, il y a besoin de fonds d'amorçage. Des fonds pour aider, soit du capital, de l'equity, comme on dit, pardonnez-moi du terme, soit même quelquefois une subvention pour permettre un investissement de voir le jour. Et donc, c'est pas parce qu'on est privé qu'on ne doit pas être réceptacle des fonds publics. Et ça, je mets un coup de pied dans la fourmilière en disant ça, parce que c'est pas très à la mode. Mais je plaide beaucoup pour ça, et c'est comme ça qu'on y arrivera ensemble.
Faut-il réformer l'aide publique au développement ? C'est l'une des questions du moment.
Il est grand temps.
Et est-ce qu'il faut faire participer le secteur privé ?
C'est essentiel. Et vous savez, il y a ce concept d'aide liée et déliée. Il se trouve que l'aide française au développement a pris le parti d'être majoritairement, voire très majoritairement, déliée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut tout à fait financer des entreprises chinoises ou espagnoles, c'est mieux déjà, mais turques, indiennes, si elles sont moins chères, mieux disantes, etc. Mais pas du tout la même chose en matière de formation, emploi et respect de l'environnement. Et il y a l'aide liée qui est tout à fait autorisée aussi, mais qui est trop petite. Il faudrait rééquilibrer tout ça en ayant bien sûr du délié qui peut donner des avantages aux sociétés françaises qui ont donc par effet ricochet accès à l'aide déliée des autres pays. Ça, c'est l'argument qui est mis en avant. Mais l'aide liée, il faut avoir de plus grands investissements d'aide liée pour que les sociétés françaises bénéficient de cet argent et qu'à la fin du fin, quand on regarde bien tout ce que ça fait, que la richesse soit partagée en France et sur le continent africain avec les fonds d'avantage français.
Et je voudrais aussi dire là-dessus qu'il y a une espèce de distorsion de concurrence. L'aide liée en France, elle est de l'ordre de 5 à 10%. Chez les Japonais, je crois savoir qu'elle est de l'ordre de 25%. Et chez les Chinois, elle est de 100%. Donc quand les Chinois financent un projet, ce sont les entreprises chinoises qui le réalisent, pas nous. C'est tout. On ne demande pas davantage. On demande simplement qu'à qualité égale et avec des prix convenables, on puisse compéter.
Regardez, un petit exemple tout simple. On peut dire que l'aide déliée, elle n'est possible que pour les pays qui ont aussi de l'aide déliée, ce qui exclura de facto les entreprises chinoises des marchés publics financés par l'aide au développement française.
Autre tendance du moment, ces entreprises françaises qui, pas forcément quittent, mais s'éloignent de l'Afrique. On a Bolloré qui cède ses activités logistiques à MSC. On a aussi des banques françaises qui commencent à se désengager. Alors parfois ce sont des rumeurs, parfois ce sont des vérités. Ça peut être mal ressenti aussi, Étienne Giros.
Oui, mais ça c'est un fait aussi, malheureusement. D'abord, sur
la cession
de Bolloré, c'est pour moi... Ça n'est pas vendu parce que les résultats ne sont pas là ou parce qu'il y a un manque de confiance en Afrique. C'est des opportunités ou une décision stratégique du groupe qui ne m'appartient pas de commenter. Par contre, je ferai un commentaire. C'est qu'il a existé quelque part en Europe un investisseur qui s'appelle MSC qui a accepté de mettre 5,7 milliards d'euros pour investir en Afrique. Donc, ne disons pas que cet investissement est une vision négative de l'Afrique. Disons simplement que c'est des arbitrages entre des investisseurs et qu'il existe des gens qui sont encore capables d'y croire.
Les banques françaises qui ferment des filiales.
Les banques françaises, c'est une vieille histoire. Et maintenant, en fond, il faut accepter, et pour moi c'est une bonne chose, que le système bancaire africain, il est largement dans la main des Africains eux-mêmes. Et il y a encore un groupe français qui est la Société Générale.
Si je ne m'abuse, voilà, c'est déjà très présent,
très important, et qui a une stratégie de développement.
Mais
pour les autres, c'est vrai qu'il y a...
Paribas,
et vous savez pourquoi ? C'est tout simplement la comparaison entre la taille du marché et le risque ressenti. Et le risque ressenti pour les banques, il est très fort à cause des questions de conformité et de régulation. Il faut se rappeler que la BNP a quand même subi des amendes terribles des Américains pour des histoires relativement liées à l'Afrique.
Mais un marché de plus en plus concurrentiel aussi, avec des banques sur les téléphones mobiles, avec aussi des sociétés étrangères. Hein. On sait que des banques étrangères sont en train aussi de prendre des marchés en Afrique.
Oui, il y a
des banques étrangères, d'autres pays que la France.
Outre non françaises, bien sûr. Et c'est le sens de l'histoire. Hein. Je crois que personne ici n'est contre le fait qu'il y ait une libre concurrence. Moi, ce que je vois surtout, c'est que la Société Générale est extrêmement présente et se développe massivement. N'oublions pas que Orange va aussi avoir une branche banque pour se développer sur les aspects mobiles. BNP Paribas, on sait ce qui s'est passé au Soudan notamment. Bon, voilà, il y a eu un accident de parcours et donc leur décision, elle est comme ça. Mais qu'il y ait d'autres banques, des éco-banques et des banques d'Afrique du Nord également, ils soient très présentes, je ne vois pas où est le problème dès l'instant que nous avons cet acteur majeur dont on peut être très fier, qui est la Société Générale.
Est-ce que vous me permettez de mettre en avant juste un petit paradoxe, qui est que c'est au moment où la France est réputée perdre des parts de marché, ce qui n'est pas d'ailleurs totalement exact parce qu'elle est très implantée localement et elle perd des parts de marché en export-import, mais elle reste présente localement. Mais c'est à ce moment-là où nos parts de marché import-export baissent que nous sommes de plus en plus critiqués en termes d'image. C'est paradoxal. On baisse et on nous critique davantage.
Vous restez avec nous, Étienne Giros et Stéphanie Rivoal. Je voudrais que l'on écoute le secrétaire américain adjoint au commerce, Don Graves, qui vient d'effectuer une tournée en Afrique de l'Ouest, pour annoncer un engagement plus important de l'administration Biden.
L'administration Biden et le département au commerce ont pour objectif, par notre engagement en Afrique, de développer des relations plus proches, basées sur le respect mutuel, qui doivent nous permettre de surmonter les défis à court terme, mais aussi les défis économiques à long terme vers davantage de prospérité.
Un partenariat basé sur le respect mutuel, dit le représentant de l'administration Biden. C'est un reproche fait souvent à la France, cette forme de néocolonialisme. Est-ce que c'est vraiment arrangé dans le passé, Stéphanie Rivoal?
Je pense qu'on nous fait quand même énormément de procès. Les sociétés françaises et l'État français sont, de mon point de vue, j'ai quand même servi l'État, les meilleurs amis des pays africains. On se connaît notamment avec l'Afrique de l'Ouest, bien évidemment, depuis des décennies. On a du sang mêlé, des mariages communs, une diaspora croisée. Donc, je suis désolée. Après, que les Français soient assez d'arrogance, on l'est en Afrique, on l'est aux États-Unis, on l'est en Europe, on l'est partout. On est un peuple, peut-être, effectivement, qui pourrait être un peu moins arrogant dans nos méthodes. Ça, je le dis souvent aux sociétés avec lesquelles je travaille. Il n'en reste pas moins que par rapport à d'autres. Prenons l'exemple des Chinois, je suis bien désolée, mais la manière de travailler avec les Africains est tout autre. Le nombre de cadres africains, le nombre de personnes formées, nous, on n'est pas du genre à avoir des charters de Français pour travailler sur des chantiers. C'est ce que font les Chinois, n'oublions pas ça. Donc, on peut nous faire tous les procès qu'on veut. Je pense qu'on a des manières de travailler qui sont extrêmement respectueuses. Les Américains le disent, mais nous, ça fait quand même des décennies qu'on travaille en partenariat et main dans la main avec des sociétés africaines et les autorités publiques africaines. Donc moi, je n'ai rien à dire sur nos méthodes. Elles vont aller en s'améliorant de manière encore plus partenariale.
Étienne Giros, par rapport à ces méthodes, justement, pourquoi est-ce que l'arrivée des Russes ou l'arrivée des Turcs est aussi bien ressentie dans un certain nombre de pays? Encore une fois, je ne généralise pas.
D'abord, elle est bien ressentie, mais elle est quelquefois mal ressentie aussi, donc il faudrait faire la balance. Mais je pense qu'ils ont un certain nombre d'atouts qu'il faut reconnaître. D'abord, ce n'est pas la peine de reprocher leur présence. Ils contribuent à la croissance de l'économie africaine, et c'est très bien. Ce sur, contre quoi nous protestons, c'est les distorsions de concurrence et la concurrence déloyale. Ça, ça ne va pas. Voilà. Mais autrement, ce qu'ils ont, c'est qu'ils vont vite. Quelquefois, nous allons trop lentement, parce qu'on est assez multilatéraux. Nous, les grands groupes, quand on finance des projets, il y a souvent des financements multilatéraux avec des bailleurs de fonds internationaux qui posent des conditions qui nous ralentissent beaucoup. Donc, ils vont plus vite que nous. Deuxièmement, ils s'autofinancent tout seuls. Troisièmement, ils font de l'aide liée, ce que nous ne pouvons pas faire. Et quatrièmement, ils sont assez efficaces sur le terrain, quelquefois en s'exonérant des règles de conformité qui, nous, non pas nous pèsent, parce que nous sommes tout à fait d'accord pour les appliquer, mais que nous, qui nous ralentissent et qui nous gênent par rapport à eux. Voilà pourquoi c'est pas toujours très facile.
Avant de refermer ce premier débat, je voudrais que l'on accueille d'ores et déjà notre invité suivant, Alain-Claude Bilibinzé. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le ministre de l'Énergie et des Ressources Hydrauliques du Gabon, ministre d'État, porte-parole du gouvernement gabonais. Quel regard vous portez sur cette présence des entreprises françaises en Afrique et aussi sur la concurrence d'autres pays étrangers ?
Les entreprises françaises ont l'avantage de connaître l'Afrique. Et l'Afrique les connaît. Simplement, l'Afrique change. L'Afrique évolue. Et il est souhaitable que les entreprises françaises s'adaptent à ces évolutions positives, j'entends. La concurrence, c'est ce que nous attendons tous. Et je ne pense pas que les entreprises françaises craignent particulièrement la concurrence. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut que les règles soient claires pour tout le monde. Et pour les Africains, d'ailleurs. Et dans le même temps, nous avons le sentiment paradoxal que, alors que nous nous connaissons bien, pour ceux qui est du Gabon par exemple, les entreprises françaises ont choisi des secteurs dans lesquels on les retrouve. Ça va être les mines, ça va être le pétrole, ça va être un peu de forêt, mais pour le reste, la part belle est laissée aux autres. Et on a le sentiment qu'en réalité, dans cet amour qui nous unit, la France regarde un peu l'Afrique centrale, pas du même regard que l'Afrique de l'Ouest. Et c'est un constat qui me paraît de plus en plus évident. Il y a un vrai dynamisme français en Afrique de l'Ouest qu'on ne retrouve pas en Afrique centrale, où il y a plus exploitation des matières premières qu'installation véritable des entreprises.
Un amour à géométrie variable, Stéphanie Rivoal.
Je dirais qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et celles que les sociétés françaises pourraient tout à fait donner aux pays d'Afrique centrale, d'Afrique du Sud, d'Afrique aussi de l'Est, c'est d'aller s'implanter là-bas, de prendre du risque en étant accompagné notamment par l'État français pour participer au développement économique durable des pays et ce, sur tous les segments. Nous n'avons des compétences pas que dans ces domaines d'extraction et de matières premières, mais bien évidemment dans les autres, que ce soit dans l'agriculture, dans les services, dans les métiers du bâtiment, de l'énergie, du déchet. Énormément de besoins, énormément de savoir-faire à partager, de formation à faire. Et je ne fais que ça, expliquer aux sociétés françaises qu'il faut y aller parce que nous attendent des partenaires. Et ce que vous dites, monsieur le ministre, ça me touche. C'est-à-dire que nous nous connaissons, vous avez envie de travailler avec nous et nous allons travailler avec vous. C'est le sens, à mon avis, de l'histoire et du partenariat entre la France et l'Afrique à tisser.
Étienne Giros, ça veut dire qu'il faut communiquer davantage, médiatiser davantage ces investissements dans d'autres secteurs que, effectivement, l'extraction de pétrole, l'extraction minière, qui donne parfois le sentiment chez certains Africains que la France veut piller les ressources.
Exactement. Et ça passe par les contacts. Il faut expliquer aux investisseurs que les États africains sont en train d'évoluer positivement, que tout le contexte change. C'est exactement le sujet de notre forum d'aujourd'hui. Il y a des difficultés, mais il y a aussi beaucoup d'opportunités. Je voudrais juste signaler quand même, pour parler des entreprises françaises, on parle toujours d'entreprises françaises, Afrique occidentale, Afrique, France, Afrique centrale, Afrique francophone, etc. Je signale simplement que les trois pays, en termes de volume d'affaires, les plus importants dans l'ordre pour les entreprises françaises, c'est trois pays anglophones, l'Afrique du Sud, le Nigeria et l'Égypte. C'est juste pour corriger un peu les choses. Nous ne sommes pas exclusivement focalisés sur l'Afrique francophone, ce qui prouve qu'il faut aussi, monsieur le ministre, vous avez raison, et je l'appelle de mes voeux, aller davantage, encore, on y est déjà très présent, en Afrique centrale.
Monsieur le ministre, il y a un autre dossier qui empoisonne encore, hein, empoisonne, le mot est un peu fort peut-être, mais on va dire qui handicape les relations entre la France et les pays africains, c'est la réforme du franc CFA. Si elle va à son terme, avec le changement du nom de la monnaie, ce serait un pas important.
Mais je pense qu'il faut se méfier des totems, il faut se méfier des gris-gris. Finalement, ce qui va importer, c'est de maintenir une relation économique et commerciale. Peu importe ensuite quel type de monnaie, l'essentiel, c'est les échanges. La France commerce bien avec le Nigeria, il n'y a pas le franc CFA au Nigeria. Avec l'Afrique du Sud, il n'y a pas de franc CFA.
Il y a un
pays
aspect
qui...
quand même émotionnel très fort avec cette
oui, monnaie. Mais ça relève des émotions,
de la,
des sentiments. C'est des questions d'amour et les divorces, c'est toujours très compliqué. Mais lorsqu'on retrouve la tête froide, il n'y a pas un sujet qui peut empêcher les évolutions entre le continent africain CFA et la France euro. Il n'y a pas un sujet. Il faut vraiment éviter les totems pour arriver à un débat serein sur le sujet.
C'est quand même une bonne chose pour vous qu'on réforme cette monnaie ?
Mais la réforme est indispensable. Je vous ai dit, l'Afrique évolue. Il faut que tout ce qui constitue l'Afrique évolue également. Si le franc CFA est perçu aujourd'hui comme une relique d'une époque, il faut peut-être dépoussiérer la relique pour avancer.
Pas de totem, Stéphanie Herval.
En fait, si vous voulez, on peut se rouler dans l'affaire du franc CFA, de la colonisation, pendant encore les 10 prochaines années, si on veut. Ça ne fait avancer personne, ni les pays africains, ni la France. Pour moi, si vous voulez, la réforme du franc CFA, elle est déjà faite. Les réserves ont déjà été transférées, le nom a été donné. Les pays africains sont en train complètement, car c'est à eux d'organiser la zone.
Les billets, quand on est en Afrique, ce sont encore des CFA.
Mais, très bien. Je vous signale que nous partageons aussi une langue qui s'appelle le français. On va changer le nom de la langue parce qu'il y a France dedans. Il y a un moment donné, on partage des choses. On partage quelque chose. Le français ne nous appartient pas puisque c'est surtout les Africains qui parlent cette langue. Le franc CFA n'appartient pas à la France. Il circule en Afrique. Arrêtons de nous prendre un petit peu la tête, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi, sur ces sujets-là, alors que nous en avons d'autres. Participer à la prospérité et au développement économique durable des pays africains. Si vous voulez qu'on en parle encore, mais on peut le faire, mais c'est exactement ce que les autres nations qui sont en train de s'intéresser au continent veulent que nous fassions, de nous rouler dedans à l'infini. Alors que nous avons des solutions extrêmement concrètes, pragmatiques, pour aider au développement économique, pour lutter contre la pauvreté, avec des partenaires africains qui sont en face de nous et qui sont en demande aussi de ce type de soutien.
Il faut arrêter ce genre de débats qui sont assez contributifs de l'aversion au risque et qui donne une mauvaise image aux investisseurs, ces discussions-là qui sont assez instrumentalisées. Au fond, ce qu'il faut pour le CFA, c'est la souveraineté des pays africains. Je crois qu'ils l'ont maintenant sur cette question-là. Deuxièmement, la transférabilité. Il faut pouvoir transférer les fonds. C'est ce que demandent les entreprises, les personnes privées. Et troisièmement, un taux de change fixe. Ça, c'est garanti. Après, appelez-le franc CFA, éco ou n'importe quoi. C'est peu important, ce qu'il faut c'est ça, pas de totem, mais du pratique.
On va remercier nos deux premiers invités, Étienne Giros, président du CIAN, le Conseil français des investisseurs en Afrique, Stéphanie Rivoal, administratrice de Meridiam, présidente du Conseil stratégique Afrique du groupe Duval. Merci à vous deux et on va poursuivre la discussion avec le ministre gabonais de l'énergie.
Mother, there's too many of you.
Juste le temps de vous dire que la semaine prochaine, vous pourrez entendre dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs, un long entretien avec les dirigeants du groupe chinois Huawei en Afrique. Vous verrez que leurs projets sont nombreux dans des domaines très différents et leurs ambitions intactes.
L'Afrique, ça reste toujours le marché stratégique pour nous parce que l'Afrique, il a plus de potentiel dans le monde entier. Et la population, c'est le plus jeune, c'est la nouvelle génération qui va piloter le futur. On va continuer notre business et notre engagement et notre investissement dans ce continent.
Huawei en Afrique, samedi prochain dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI. A tout de suite, je vous laisse quelques secondes encore avec Sly Johnson, rappeur français qui rend hommage ici à Marvin Gaye. To bring some loving here today. Oh, picket lines, sister. Picket signs, sister. Don't punish me, sister. With brutality, sister. Talk to me, sister. So you can see, sister. What's going on? What's going on? Hey, what's going on? What's going on? Yeah, hey.
RFI à Libreville, 104 FM. Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, dans les locaux de l'hôtel Novotel Paris Centre Tour Eiffel, à l'occasion du Forum Afrique du CIAN, le Conseil français des investisseurs en Afrique, en partenariat avec le journal L'Opinion, et notre invité Alain-Claude Bilibinzé, ministre de l'énergie et des ressources hydrauliques du Gabon, sujet majeur par les temps qui courent. L'énergie, à commencer par le pétrole, le carburant indispensable pour se déplacer dans les capitales africaines en ce moment, sujette aux pénuries et aux prix très chers. Exemple, ici à Brazzaville.
Comme moi, là où je suis, j'ai fait 2 jours dans la station, j'ai rien reçu.
On a besoin du carburant, mais on ne trouve pas. On reste à la maison, on galère avec la famille jusqu'à ce qu'on aura du carburant. On ne sait même pas si la pénurie est due à quoi. On ne comprend rien.
Pour travailler, il faut avoir le carburant. Je suis là bloqué à la session depuis le matin et moi-même, je n'ai rien même à manger.
Voilà, on entend bien la préoccupation de ces automobilistes, le carburant essentiel pour vivre, pour travailler quand on est chauffeur de taxi, par exemple. Alain-Claude Bilibinzé, comment vous réagissez? Que peuvent faire les gouvernements? Le Gabon, lui aussi, a été concerné par ce problème.
Ce problème est mondial. Nous voyons aujourd'hui qu'aux États-Unis, Joe Biden tente de modifier une loi pour essayer de faire baisser le prix du carburant à la pompe.
La suspension des taxes.
On a vécu le phénomène en France. Il faut quand même rappeler que le phénomène des gilets jaunes est parti d'une augmentation des prix du carburant. Et c'est donc un phénomène mondial. Les États africains subissent les mêmes sujets d'inflation. Et ce que nous tentons de faire, en réalité, c'est de maîtriser ces prix de consommation à la pompe en mettant en place des mécanismes pour encourager à la fois le maintien de l'activité économique, tout en limitant la cherté du carburant à la pompe. Et donc, c'est un mécanisme qu'on met en place avec le soutien des partenaires qui nous accompagnent, partenaires techniques et financiers.
La priorité pour le Gabon a été d'abord de faire face aux pénuries de carburant. La question de la production.
La priorité, elle a été double. Nous n'avons pas une production suffisante pour couvrir les besoins du marché. Et à ce moment-là, nous avons libéralisé de sorte de pouvoir importer des produits blancs. Donc ça a été un premier enjeu pour nous. Le second enjeu, ça a été de limiter la progression, la hausse des prix du carburant à la pompe. On a mis en place des mécanismes en réalité qui auraient dû suivre à la pompe. Lorsque le prix baisse à l'international, ça baisse également à la pompe. Et lorsque ça augmente à la pompe. Mais l'État a choisi de stabiliser les prix afin de ne pas enclencher la mécanique de la vie chère qui va à la fois atteindre les transporteurs, mais également les commerçants. Et on ne souhaite pas qu'en bout de chaîne, il y ait un certain nombre de difficultés pour les populations.
Priorité au pouvoir d'achat au Gabon. Pourtant, le FMI, lui, demande que les profits pétroliers soient utilisés pour les infrastructures, pour les investissements.
Le FMI est un partenaire essentiel pour le Gabon. Nous travaillons ensemble et nous entendons parfaitement les orientations qui sont proposées. Mais dans le même temps, un gouvernement doit faire des choix. Nous avons fait le choix de consacrer une partie, et vous ne l'avez pas évoqué en tant que tel, mais une partie des revenus supplémentaires actuels aux infrastructures, notamment routières, mais dans le même temps au soutien au niveau des ménages, continuer à les accompagner parce qu'il faut malheureusement tenir compte du besoin qui se ressent sur le terrain d'accompagner les ménages.
Vous nous assurez que les investissements dans les infrastructures, vous avez parlé des routes, cette fameuse route vers Franceville. Vous nous assurez que les investissements sont vraiment à la hauteur de ce que vous pouvez faire ? Ça ne pourrait pas aller plus vite ?
Ils peuvent aller plus vite, mais dans le même temps, nous souhaitons être prudents parce que c'est un modèle nouveau qui a été mis en place, modèle de financement d'une route par un mécanisme en PPP où l'État apporte sa contribution, mais aussi l'investisseur privé. C'est la première fois qu'au Gabon, nous réalisons une route sous ce modèle-là. Donc, il faut aller prudemment. Mais je vous garantis que les ressources, d'ailleurs, la loi de finances rectificative qui a été adoptée au Parlement à l'Assemblée nationale il y a 2 jours, a consacré une part importante des ressources issues de la plus-value pétrolière à la poursuite des travaux de la Transgabonaise.
Le Gabon est un important producteur de pétrole en Afrique, pas le premier, mais l'un des premiers, membre de l'OPEP. Pourtant, les ressources s'épuisent. Qu'est-ce qu'on fait ?
Nous sommes conscients que nous n'avons plus les mêmes ressources qu'il y a 30 ans. Et le Gabon a amorcé très tôt la diversification de son économie. Depuis 10 années maintenant, nous avons mis un accent sur la valorisation des autres ressources de l'État, du pays, notamment les mines, les minerais, notamment la forêt bois, l'agriculture, la pêche, de sorte que nous parvenions aujourd'hui au niveau de notre PIB à avoir une part de plus en plus importante des ressources hors pétrole par rapport aux ressources pétrole. Parce que nous sommes conscients que le pétrole n'est pas éternel. Mais nous sommes également conscients que le peu qui nous reste doit être mieux valorisé pour contribuer à un meilleur partage des richesses, notamment en investissant dans les infrastructures, dans l'éducation, dans la santé, pour qu'il y ait un cercle vertueux.
Est-ce qu'il faut quand même développer l'exploration pétrolière ?
Il faut continuer.
Il y a sans doute encore des ressources.
Il faut continuer.
C'est
pour cela que le nouveau code qui a été mis en place, qui concerne le pétrole, a aujourd'hui permis d'attirer cet nombre d'investisseurs. Un appel d'offres a été lancé, des lots ont été attribués. Nous sommes en phase de discussion pour pouvoir attribuer définitivement et lancer l'exploitation. Et donc, effectivement, cette ressource, elle va encore compter pour le pays, elle va encore compter pour les générations, mais nous sommes conscients qu'on n'en a plus pour des décennies.
Les relations avec les grandes compagnies pétrolières multinationales, parfois on sait qu'elles peuvent être tentées de se désengager. Le Gabon a encore besoin d'elle ?
Nous avons besoin des grandes compagnies, comme des compagnies moyennes, comme des compagnies gabonaises dans ce secteur-là. On a mis en place une compagnie nationale qui commence à travailler et avoir des résultats. Peut mieux faire, on va dire, mais il y a des résultats. Ces grands groupes internationaux, les multinationales, sont des partenaires du Gabon depuis de très longues années. Et nous n'allons pas nous séparer dans un divorce fracassant. Nous discutons. Lorsqu'ils veulent se désengager, nous nous asseyons, on discute, on établit les conditions des engagements qui ne soient pas préjudiciables au Gabon et aux intérêts du Gabon et qui comprennent également que, bon, il y a parfois nécessité pour ces groupes d'aller voir un peu sous d'autres cieux comment ça se passe et nous les accompagnons également.
Puisque l'on parle de financement de projets liés aux énergies fossiles, je voudrais que l'on écoute les propos du président nigérien Mohamed Bazoum. Il y a quelques jours, lors de l'Africa CEO Forum à Abidjan, il a prononcé ces quelques mots en direction des pays occidentaux qui ont précisément décidé la fin du financement des projets liés aux énergies fossiles.
Nous n'avons pas un bon rapport de force aujourd'hui entre ceux qui conçoivent ces mesures, comme notamment celles qui consistent à prohiber les énergies fossiles, et les pays comme les nôtres qui ont des intérêts et qui sont totalement en porte-à-faux avec ce genre d'exigences-là. Nous allons continuer à nous battre. Nous avons des ressources fossiles qui doivent être exploitées. Nous serions même prêts à passer outre à ces engagements, sauf que malheureusement, nous ne disposons pas des capitaux pour les investir et faire en sorte que le Niger aujourd'hui puisse utiliser son charbon pour produire de l'électricité, envisager son industrialisation. Nous sommes punis et le monde international est un monde qui fait d'injustice vraiment.
Voilà. L'Afrique est punie, affirme le président nigérien. Alain-Claude Bilibinze, pour le Gabon, vous êtes d'accord ?
Le président nigérien dit une chose qui est vraie. Les décisions sont prises en Occident avec des effets que nous allons subir sur le continent. Si on prend la question de l'arrêt des financements des énergies fossiles, c'est l'avantage qui l'Occident, qui aujourd'hui a maîtrisé un certain nombre de technologies, mais dites-moi, puisqu'on parle du Niger, si le Niger avait sa centrale nucléaire pour produire l'électricité, est-ce que vous ne pensez pas que l'Afrique de l'Ouest aurait été électrifiée il y a longtemps ? Le Niger fournit la matière première qui permet aux pays occidentaux aujourd'hui d'être autonomes en énergie et d'être des puissances nucléaires civiles en temps. Est-ce que c'est équitable ? Donc voilà les vraies problématiques. Les énergies fossiles, nous avons besoin pour électrifier le continent, pour industrialiser le continent, mais aussi pour avoir des ressources financières pour le continent. Et il serait souhaitable que les financements se poursuivent. Si l'Europe ne finance pas, l'Afrique trouvera des financements ailleurs. On a besoin de ces énergies.
La relation énergétique avec les pays occidentaux, particulièrement dans le contexte actuel de la guerre en Ukraine, la construction de gazoducs transnationaux pour traverser l'Afrique, il faut accélérer ces projets, il faut alimenter l'Europe.
Mais ces gazoducs vont transporter quoi ? Les énergies fossiles. Vous voyez dans quel contexte on se retrouve ? La crise en Ukraine a amené certains pays européens aujourd'hui à continuer l'exploitation des énergies fossiles, y compris le charbon. Y compris le charbon, pour passer l'hiver, on va dire. Et donc, ça montre bien que les besoins de l'Europe rythment finalement le monde. Est-ce que ça peut continuer ? Je ne sais pas.
Les projets s'accélèrent entre le Nigeria et le Maroc.
Les projets s'accélèrent
vers l'Algérie aussi.
Entre le Nigeria, le Maroc. Il y a des projets aujourd'hui entre le Sénégal, la Mauritanie, mais toujours pour le marché européen. Il faut aller plus vite, mais dans le même temps, nous indiquons très clairement que la ressource du continent africain doit bénéficier en premier lieu aux Africains. Cela vaut pour le Niger, pour le Nigeria, pour le Gabon, pour tous les pays africains. Nous comprenons le besoin de l'Europe aujourd'hui. Nous comprenons qu'aujourd'hui, l'Europe va financer davantage les infrastructures pour l'exploitation du gaz dans les pays africains, parce que l'Europe en a besoin aujourd'hui. Mais il faut continuer. Et se dire que l'Afrique en a besoin également. Et donc, on ne peut pas cesser les financements. Ce ne serait pas une bonne chose.
On a parlé de ces enjeux environnementaux. Comment accroître l'efficacité énergétique d'un pays comme le Gabon, où les infrastructures ne sont pas encore forcément à la hauteur, notamment dans le domaine des énergies renouvelables ?
Pour ce qui est de la question de l'environnement, la contribution de l'Afrique sur la question des changements climatiques a été estimée à 3%, voire moins. En ce qui concerne le Gabon, c'est 88% de forêt. Le Gabon, c'est 100 millions de tonnes aujourd'hui dans la question de la captation du CO2 par nos forêts. Depuis Copenhague, le Gabon, c'est à peu près 1 milliard de tonnes que nous avons réussi à capter pour préserver les forêts et l'environnement. Cela veut dire que ceci doit être compensé. Mais dans le même temps, vous avez raison, il nous faut davantage d'infrastructures pour que les Gabonaises et les Gabonais accèdent à une énergie propre, compétitive et accessible à tous. Cela nécessite effectivement des investissements très importants et la technologie sur les énergies nouvelles n'est pas encore accessible à tous les Gabonais. Il faut donc pouvoir encourager l'installation au Gabon d'entreprises qui vont se spécialiser dans ce domaine et c'est ce que nous faisons à travers le mix énergétique que nous mettons en place avec l'objectif d'ici à 2030 de passer à 80% de renouvelables dont l'essentiel sera de l'hydroélectricité. Et plusieurs projets sont en cours de mise en œuvre dans ce sens-là.
À ce propos, je voudrais vous faire réagir à ce qu'a dit il y a quelques jours Fatih Birol, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie.
L'Afrique a un gros potentiel en termes d'énergie renouvelable. L'avenir de l'électricité en Afrique passera principalement par les énergies renouvelables et en particulier le solaire. Pourtant, seulement 1% des capacités photovoltaïques mondiales se trouvent en Afrique. Il y a bien sûr aussi la géothermie, l'éolien et d'autres énergies, mais le solaire est très compétitif par rapport à beaucoup de carburants en termes de coûts et de disponibilité.
Le solaire, l'énergie la plus compétitive par rapport à bien d'autres énergies?
Oui, mais il faut nuancer. L'Afrique est multiple, elle est variée. L'Afrique du Nord, le Sahara, l'Afrique au niveau du Sahel a de gros potentiels. Le Gabon est couvert de forêts. Je ne suis pas certain que le solaire au Gabon soit compatible avec notre volonté de maintenir le couvert forestier. Mais nous avons commencé également des projets solaires. Au Gabon, on fait le choix plutôt de l'hydroélectricité parce qu'on a un potentiel important, même si cela nécessite des capitaux plus importants et plus lourds, mais le potentiel et l'énergie stable sortie d'hydroélectricité permettra de développer le Gabon. On préfère aujourd'hui avoir un mix et des hybridations solaires-thermiques que d'aller tout seul dans le solaire. Et encore, lorsqu'on est sur le solaire, il faut également des capacités de stockage et c'est un enjeu important.
L'hydraulique, puisque vous êtes ministre des ressources hydrauliques, qu'est-ce que ça représente au Gabon?
Aujourd'hui, l'hydroélectricité représente à peu près 37% dans le mix énergétique que nous avons. Notre objectif est de le porter à 70 à 80% d'ici à 2030. On a donc trois grands barrages qui sont en projet. Il y a le barrage hydroélectrique d'Ngoulmendjim avec le français Eranov qui va accompagner la levée des fonds pour réaliser ce barrage. Nous avons le barrage de Kingué-Laval avec le français Méridiam qui accompagne également. Et nous sommes en train de travailler sur Fédé et Impératrice avec également des Français de Coderre qui sont en train de travailler pour une finalisation de convention. Et donc nous sommes sur des projets très importants. Nous avons besoin d'énergie pour développer les mines parce que nous souhaitons accompagner le développement du secteur minier, mais il faut de l'énergie. Et le solaire est une énergie intermittente qui ne permettra pas de développer les mines. Et donc c'est pour ça qu'on fera un mix entre le solaire et l'hydroélectricité.
L'énergie au service de l'économie globale pour pouvoir justement investir encore dans cette transition?
Il n'y a pas de développement industriel sans énergie. Et nous sommes obligés de passer par une énergie suffisante, abondante, compétitive pour asseoir l'industrialisation du Gabon et plus loin du continent africain.
Merci à vous, Alain-Claude Bilibinzé, ministre gabonais de l'énergie et des ressources hydrauliques, porte-parole du gouvernement du Gabon.
C'est moi qui vous remercie.
Merci à Alice Ménard et à Donatien Cahu pour la réalisation de cet écho d'ici, écho d'ailleurs, à l'occasion de la deuxième édition du Forum Afrique du CIAN avec le journal L'Opinion. À la semaine prochaine, on poursuit la discussion sur nos réseaux sociaux. Bonne journée, bonne soirée sur RFI. Portez-vous bien.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, vous a été proposé par la BOAD, Banque Ouest-Africaine de Développement.